Est-ce qu'il y a eu récemment dans votre entourage une naissance ?
Moi, récemment, bon, il y a eu.
Alors, si c'était récemment, vous avez encore toutes fraîches ces réactions. Si c'était pas récemment, c'est un peu plus ancien, mais vous les avez présentées à l'esprit, vous savez, ces réactions dans ce cas-là sur le mode « Oh ! Mais c'est le portrait de son papa !» Avec toutes les variantes possibles, hein. Il a le regard de sa maman, il a le nez d'oncle Alfred, il a le menton de tante Ursula. Alors évidemment, quand c'est le nez d'oncle Alfred ou le menton de tante Ursula, on est un peu moins content, mais enfin voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ce genre de phrase? Quand on dit ce genre de phrase? Eh bien, dans ce qui est nouveau, on met de l'ancien. Dans ce qui est inconnu, on met du connu. Dans ce qui est autre, on met du même. Deuxième exemple, moins drôle. La méfiance à l'égard de celles et ceux qui sont perçus comme différents, la suspicion à l'égard des personnes étrangères, parfois le racisme, ce sont des plaies que l'on rencontre à peu près partout dans le monde. Et on le sait, notre pays est profondément travaillé par cette défiance. Oh, évidemment, elle ne date pas d'aujourd'hui, rien de très nouveau, mais elle est régulièrement réactivée par des manipulations de toutes sortes, elle est entretenue par des lâchetés ou des renoncements. Et hélas, la défiance et même le racisme sous toutes ses formes n'épargnent pas les églises. Il y a quelque temps, j'ai été par hasard le témoin d'une conversation entre une dame et un pasteur et le pasteur de sa paroisse. Je ne sais pas comment la conversation avait commencé, mais quand je suis arrivé, j'entendais la dame dire « De toute façon, les Corses, c'est tous des flemmards, des profiteurs, des mafieux. » Alors le pasteur, vous savez, dans ces cas-là, il essaye de faire un peu de pédagogie, quoi, de travailler les choses un peu « Ah bon, mais dans notre paroisse, il y a Ange Pascal, par exemple, il est corse, Ange Pascal, et vous trouvez que c'est un flemmard ?»
Ah, mais non, dit la dame.
Et elle a cette réponse extraordinaire, hein, je n'invente pas, elle a cette réponse extraordinaire, pas Ange Pascal, pas lui, bien sûr, lui, c'est différent, lui, on le connaît. Et donc, quelle est la différence entre Ange Pascal et tous les autres Corses, selon cette dame, hein? Eh bien, l'autre, qui était un membre indistinct d'une masse vaguement menaçante, les Corses, il était devenu un mème dans le cadre de la paroisse. Il était devenu quelqu'un de fréquentable, de bienvenu, et même, il était devenu un frère. Alors, nous en sourions, bien sûr. Mais nous savons bien que ce n'est pas si drôle que ça. D'ailleurs, troisième exemple épouvantable. Les génocides sont toujours précédés d'une période durant laquelle les victimes sont progressivement déshumanisées. Il faut d'abord humilier. Déshumaniser dans les regards, dans les mots, dans les têtes. Et une fois que c'est fait, une fois que les semblables sont devenus des sous-hommes, des non-humains, des absolument autres, alors l'élimination devient non seulement possible, mais utile, nécessaire aux yeux du bourreau. Et vous voyez, du plus mignon au plus atroce, ces trois exemples soulignent ceci, chacun à sa manière. Lorsque je suis en présence d'un autre ou d'une autre, et que je perçois chez cet autre ce qui est vraiment différent, vraiment autre. Cela m'atteint, cela me touche, cela me bouleverse, et parfois même cela me terrifie. Je cherche à l'apprivoiser ou à le domestiquer pour qu'il soit semblable. Ou bien au contraire, je le rends tellement autre à mes propres yeux que je peux l'écarter, l'oublier, l'éliminer symboliquement ou réellement. Toujours, nous cherchons à apprivoiser l'autre ou à l'éliminer. C'est vrai avec l'autre quand il est humain, Et c'est vrai aussi avec l'autre quand il est divin. Dieu aussi m'est inconnu. Dieu aussi peut m'inquiéter. Dieu aussi peut-être parfois me terrifie. Et je cherche lui aussi à l'écarter, à l'éliminer, ou plus subtilement, à l'apprivoiser, à le domestiquer. Et dans la Bible, ça porte un nom. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, elle peut emprunter, en gros, deux chemins. Je ne supporte pas que Dieu soit différent, autre. Alors j'essaye de me faire son semblable. Je cherche à l'atteindre, je cherche à l'imiter, je cherche à m'élever jusqu'à lui. C'est un premier chemin possible. Dans la Bible, c'est par exemple l'indécence du récit d'Adam et Ève, fascinés par la promesse du serpent au jardin d'Éden. Le serpent leur dit « Si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. » Ah, être comme des dieux. Se faire l'égal de ce que nous plaçons au-dessus de tout, de ce que nous considérons comme sacré, ça peut être le sens de beaucoup de nos actions, notamment religieuses, quand elles sont animées par une volonté d'atteindre un idéal, une perfection, y compris quand elles se dissimulent très bien sous une fausse humilité qui se trompe elle-même. L'autre chemin de l'idolâtrie consiste non pas à se rendre semblable à Dieu, mais à le rendre lui semblable à nous. Le but alors, c'est de faire de Dieu quelque chose de connu, de maîtrisé, de domestiqué, et donc de manipulable. Dans la Bible, pensons par exemple au récit du veau d'or. On ne supporte pas que Dieu soit invisible, alors on s'en fabrique un, à notre mesure, avec ce qu'on a de plus précieux, les bijoux, les boucles d'oreilles, etc. On s'en fabrique un avec ce qu'on a de plus précieux, que ce précieux soit du métal ou du mental. Faire de l'autre un même. C'est ce que nous faisons avec notre prochain, et c'est aussi ce que nous faisons avec Dieu. Selon le Premier Testament, la première partie de la Bible, la réponse de Dieu à cette tendance qui est la nôtre, c'est sa loi. Dieu donne sa loi pour que l'autre soit maintenu autre, pour que je ne puisse ni l'éliminer, ni le domestiquer, pour me contraindre à le voir comme cet autre qu'il est, qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse de Dieu. Il y a un instant, on a entendu les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, et les 6 derniers d'entre eux, ils visent à m'empêcher de mettre la main sur l'autre. Par exemple, ils m'interdisent de prendre son conjoint, tu ne commettras pas d'adultère, de prendre sa confiance, tu ne commettras pas de faux témoignages, de prendre sa vie, tu ne commettras pas de meurtre. L'autre, en somme, il existe et il n'est pas à ma disposition, il n'est pas ma chose, il est et il reste un autre. L'autre humain n'est pas à ma disposition et Dieu non plus. C'est ce qu'affirment les 4 premiers des 10 commandements. Cela, il vise à m'empêcher de croire que je peux avoir un pouvoir sur Dieu. Je n'ai de pouvoir sur Dieu ni par le biais de mon imagination, tu ne te feras pas d'image pour l'adorer, ni par le biais de mes paroles, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur de manière abusive, ni par le biais de mes actions, souviens-toi du sabbat, tu ne travailleras pas ce jour-là. Dieu est l'autre par excellence. Dieu est l'autre majuscule. Il existe et il n'est pas un même, un semblable disponible pour mes besoins et pour mes envies. C'est la fonction de la loi. De me rappeler que l'autre humain est autre, que j'ai pas le droit de l'éliminer ou de le domestiquer. Et la loi de Dieu, plus encore, elle me rappelle que Dieu est autre, qu'il l'est radicalement, qu'il l'est absolument. Or, voilà que le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible, témoigne d'un renversement complet. Dieu devient humain. Vraiment. Il ne vient pas faire un petit stage temporaire sur terre, il ne vient pas se déguiser en homme comme tant de mythes religieux le racontent. Non, il renonce à sa divinité. Il renonce à sa divinité pour devenir vraiment humain, depuis la naissance, et c'est ce que la fête de Noël nous a rappelé il n'y a pas si longtemps, depuis la naissance jusqu'à la mort, et c'est ce qu'écrivait Paul dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. En Jésus, le Christ, le tout autre devient mon semblable. Dieu devient homme. Et ça, c'est insupportable. Car voilà donc qu'il franchit cette frontière soigneusement surveillée, étanche entre l'autre et le même. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que Jésus a été mis à mort. Quand on est homme, on ne dit pas qu'on est Dieu. Quand on est Dieu, on ne devient pas homme. C'est invivable. Mais il y a plus invivable encore. Si encore il était resté au tombeau, on aurait pu progressivement apprivoiser cet autre-là, on aurait pu l'archiver dans un mausolée, on aurait pu l'embaumer dans les mémoires, on aurait pu le cantonner à quelques récits ou à quelques idées. Mais il ressuscite, il est vivant. Et sa résurrection ne vient pas refermer une sorte de parenthèse d'humanité, happy end, ah ouf, tout est rentré dans l'ordre et on peut reprendre le business as usual. Sa résurrection ne fait pas oublier qu'il est devenu un homme. Au contraire, elle souligne son humanité, elle maintient son humanité, elle pérennise son humanité. Vous avez entendu le petit passage, le petit récit d'Évangile tout à l'heure. Le ressuscité montre ses mains et ses pieds à ses disciples parce qu'ils sont percés. « C'est bien moi !» leur dit-il. « Touchez-moi !» Car un esprit n'a pas de corps, et moi, vous voyez que j'en ai un. Et pour bien souligner devant ses disciples qui sont comme ça, il prend un morceau de poisson grillé et il le mange devant eux. Si Dieu devient homme, c'est pas quelque chose de passager. C'est pas une étape, c'est pas une apparence. Dieu devient homme et ressuscité, il reste le crucifié aux plaies ouvertes. Il reste en somme, perpétuellement, sur cette frontière entre l'autre et le même. Le tout autre reste autre, et il est aussi devenu mon semblable, et il le reste aussi. Voilà qui peut changer ma vie. Je disais tout à l'heure que dans le jeu de l'autre et du même, je cherche à éliminer de l'autre, ce qui le rend autre justement, quitte à l'éliminer lui s'il le faut. Et voilà que celui que je pouvais considérer comme le plus éloigné, puisqu'il est Dieu, devient le plus proche. Celui que je pouvais considérer comme le plus à craindre, puisqu'il est absolument autre, voilà qu'il devient le moins à craindre, le plus aimant. Celui qui a donné sa loi et que je voyais comme un juge, il devient mon frère. À plus forte raison, puis-je voir ceux qui sont moins autres que lui, donc moins éloignés, moins à craindre, moins menaçants, comme d'autant plus proches, d'autant plus frères et sœurs. À partir de Jésus, le Christ, qui est donc à la fois l'autre et le même, je peux être délivré de ces peurs-là. Délivré de cette tendance à ramener l'autre au même pour le neutraliser. Délivré pour voir le monde peuplé non plus soit d'autres rivaux, soit d'autres alliés, ennemis en puissance ou objets utilitaires potentiels. Je peux voir le monde peuplé d'autres qui sont des sœurs, qui sont des frères. Voilà qui m'ouvre une voie pour une vie autre, justement. Ce que l'évangile de Jésus-Christ me fait découvrir, c'est que l'autre humain, est d'abord cet autre qu'est Dieu. L'autre n'est plus une menace pour ma vie. L'autre est la chance de ma vie. C'est ça, au fond, que je veux vous dire ce matin, que je veux nous dire ce matin. L'autre est la chance de ma vie. Vous sentez? Ce chemin qu'ouvre l'évangile, c'est évidemment pas celui de la charité au faux sens courant et étriqué du terme. C'est pas plus le chemin de la morale. Ce chemin n'est pas même celui qui nous conduirait d'abord à aller vers les autres, qu'il s'agisse de Dieu ou des humains. Que j'aille d'abord vers les autres, ce serait une fois de plus me mettre moi-même au centre. Moi et mes élans, moi et mes capacités, moi et mes efforts, moi et mes besoins, moi et mon nombril. Le chemin couvre l'évangile, c'est le chemin inverse. C'est le chemin de la foi d'abord, c'est-à-dire de la confiance d'abord. De l'accueil de l'autre. Accueillir l'autre qui est là. Accueillir l'autre qui vient. Accueillir l'autre qui vient, qu'il s'agisse de Dieu ou des humains. Et tout le reste sera donné en plus. Pourquoi est-ce que c'est si simple à comprendre et si difficile à accepter? Parce que ça me met hors de moi. Je vais vous proposer de faire une petite expérience que j'aime bien. Ça pique pas, ça fait pas mal, il vous arrivera rien. Vous me faites confiance. Oui, vous me faites confiance. Alors, est-ce que vous voulez bien, sans bouger un instant, fermer les yeux? Fermez les yeux, allez-y, fermez un petit peu. Voilà. Vous voyez, il se passe rien, c'est tout va bien. Maintenant, sans bouger, ouvrez-les. Vous expérimentez une chose tellement banale, évidente, que c'est un peu ridicule de le dire. Ce que vous expérimentez, c'est que les choses s'organisent autour de votre regard. Là-bas, je vois une porte entrouverte, ici, je vois un haut-parleur, là, je vois une masse, je crois que c'est Robert, Pascal, il y en a peut-être d'autres, je ne sais plus, mais vous voyez, les choses s'organisent autour de moi, à partir de mes yeux, notre regard nous place au centre du monde. Bon. Maintenant, regardez, prenez le temps un tout petit peu pour regarder votre voisine ou votre voisin. Allez-y. Évidemment, c'est un tout petit peu gênant, mais regardez votre voisine ou votre voisin, tout va bien se passer là aussi, il ne va pas vous mordre. Voilà. C'est bien. Vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un visage. Tiens, il s'est pas très bien rasé ce matin. Tiens, je me rappelais pas qu'elle avait les yeux exactement de cette couleur-là. Bien. Mais, en regardant votre voisine et votre voisin, ou votre voisin, vous avez vu aussi autre chose, de beaucoup plus étonnant et mystérieux. Vous n'avez pas seulement vu quelqu'un qui est plus ou moins comme ci, ou qui est plus ou moins comme ça. Regardez de nouveau, faites bien attention. Regardez votre voisine ou votre voisin, celui que vous avez regardé il y a un instant. Faites bien attention. Vous ne voyez pas seulement quelqu'un. Vous voyez aussi un regard. Vous regardez quelqu'un qui vous regarde. Tout à coup, vous n'êtes plus au centre. C'est l'autre qui visiblement devient aussi un centre. Dire que l'autre, qu'il s'agisse de Dieu ou des humains, dire que l'autre est la chance de ma vie, cela signifie que le centre de ma vie est dans l'autre et non plus en moi. Ou plus exactement, ça signifie que le centre de ma vie est dans cette relation qui nous unit, l'autre et moi, moi et l'autre. L'évangile, ça me décentre. Ça me dépossède de ce que je croyais être le plus évident, le plus personnel. Ça me met hors de moi. Et c'est pourquoi l'évangile est à la fois si simple à entendre et si difficile à recevoir, tellement allant de soi et tellement surprenant. L'évangile m'appelle à voir en l'autre celui qui me fait vivre. L'autre, c'est-à-dire l'autre humain, mais aussi et d'abord Dieu. L'autre est la chance de ma vie. Dans un monde où la violence, y compris religieuse, est parfois déchaînée, où les plus vulnérables, et en particulier les exilés, sont par principe et a priori suspectés. Dans un monde où la compétition s'étend de plus en plus à toutes les relations, et où cette compétition fait de l'autre soit un rival, soit un allié. Dans un monde où la solidarité est ainsi humiliée, rongée, il n'y a sans doute pas de message plus urgent. C'est le message que le Dieu vivant est venu porter lui-même jusqu'à la mort et jusqu'au tombeau vide. C'est le message qui nous relève. C'est le message dont nous sommes appelés à être des témoins et des acteurs là où nous sommes et ensemble. L'autre est la chance de ma vie. Qu'il en soit ainsi.